Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment il dit, un candidat qui a échoué plusieurs fois à l'examen d'État, je disais en sommaire. Pour en parler, nous avons en ligne Odon Moulanda, qui est expert en éducation. Je rappelle également le numéro, si vous voulez intervenir par rapport à ces sujets, appelez au 081-890-63-94. Alors, dites-nous, Odon Moulanda, est-ce que c'est possible d'aider une personne qui a échoué plusieurs fois à l'examen d'État? Parce qu'on a eu à parfois avoir des témoignages, il y a des personnes qui ont tenté de mettre fin à leur vie simplement parce que c'est pour la énième fois que ces personnes échouaient à l'examen d'été. Et puis bon, c'était le désespoir total. Odon Moulanda, comment peut-on faire pour aider une personne qui a plusieurs fois échoué à l'examen d'État?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport au thème qui est choisi, je pense que c'est pas impossible à aider un enfant qui a échoué plusieurs fois à l'examen d'État. Mais le contexte que présente le thème me pousse vraiment, avec votre permission, de ne pas parler seulement de l'enfant qui échoue plusieurs fois, mais parler plus des enfants qui échouent à l'examen d'État. Pas seulement à l'examen d'État, même dans plusieurs autres examens, c'est-à-dire les évaluations qui sont réalisées dans notre pays. Tous ces enfants-là ont des problèmes. Ils doivent être encadrés, ils doivent être suivis. Et ensemble, nous pouvons voir comment les aider tous à surmonter ces difficultés. Parce qu'après tout, ce que nous devons comprendre, c'est que l'enfant qui va à l'école s'attend à un résultat. Il va apprendre de cet apprentissage, il va restituer à travers les évaluations, et ces évaluations diront, voilà, tel enfant a réussi parce qu'il a dû assimiler ce qui lui était demandé. Mais dans les cas contraires, cet enfant s'attend à la publication de résultats et le résultat qui sort, c'est l'échec. C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas de rater une fois ou deux fois ou plus. Le problème, c'est de rater. C'est un échec. Et une situation de non-satisfaction. Nous devons maintenant nous poser la question. Pourquoi il y a eu non-satisfaction? Pourquoi cet enfant échoue une fois, deux fois ou plusieurs fois? C'est comme ça que nous avons voulu d'abord décortiquer les causes de ces échecs. À travers les causes, nous allons dégager les conséquences, comme vous avez dit. Et après les conséquences, nous allons chercher maintenant des voies de solution. Alors, si vous acceptez cette démarche, nous pouvons déjà continuer pour dire quelles sont les causes qui sont à la base de toute situation d'échec au niveau des écoles.
Oui.
À ce niveau-là, je peux les résumer en deux grandes catégories. Il y a d'abord des causes exogènes, c'est-à-dire des causes qui ne sont pas dépendantes de l'enfant, mais liées à son environnement. Et dans cet environnement, je peux prendre d'abord l'école. Au niveau de l'école, quand il y a le problème de sous-qualification, les sous-qualifiés n'arrivent pas à maîtriser la matière comme il faut, c'est déjà une situation problème. Il y a le non-respect de programme. Vous savez que chaque année a un programme. Chaque discipline a un programme. Lorsque l'enseignant ne sait pas respecter le programme, c'est déjà une difficulté. Il y a aussi le sérieux que les enseignants doivent mettre pour le meilleur encadrement des élèves. Il y a aussi une part qui est très importante, qui est en train de détruire notre système de promesses de suivi. L'enfant qui arrive à l'école, on nous dit, vous savez que notre école donne toujours le 100%, 100%. Et l'enfant qui arrive, il sait que non, dans cette école-là, que vous n'étudiez ou pas, vous aurez toujours votre diplôme. Et Malheureusement, quand on arrive au moment de la publication, cette école-là qui s'attendait à des 100% va donner un autre résultat. Dans le cause exogène, nous pouvons aussi passer au niveau des parents. Lorsque les parents ne s'acquittent pas aussi de leurs obligations, c'est-à-dire le paiement des frais scolaires, ces enfants qui sont chassés, c'est déjà un manque à gagner parce que les cours qu'ils sont en train de manquer, les cours auxquels ils n'ont pas pris part, lorsqu'il y aura examen, nécessairement il faut s'attendre à cet échec parce qu'ils ne vont pas maîtriser ce qu'ils n'ont pas appris. Ils seront devant des questions qu'ils n'ont jamais maîtrisées et c'est déjà un problème. Au niveau des parents, il y a aussi ce manque de suivi. Un parent qui inscrit son enfant et l'enfant à l'école n'est même pas suivi. Le parent ne connaît même pas la direction de l'école. D'ailleurs, vous savez qu'au niveau des sixièmes, il y a des enfants qui vont faire des inscriptions eux-mêmes. Et à ce moment-là, le parent qui n'est pas en contact avec l'école, les parents qui ne suivent pas la réalité de ce qui se passe au niveau de l'école, sera déphasé seulement en dernière minute lorsqu'il va apprendre que l'élève a échoué. Et c'est tout un problème. Il y en a plusieurs autres facteurs, mais je prends le plus important. Après les causes exogènes, nous pouvons parler des causes endogènes, c'est-à-dire des causes qui sont liées à la personnalité de l'enfant lui-même, notamment l'irrégularité au cours. Ces enfants qui arrivent en sixième pour la plupart ne travaillent plus comme il faut. Il y a certains qui s'absentent, ils sont déjà très sûrs des promesses qu'ils ont reçues du cas de suivi. Ces enfants ne viennent pas au cours, des fois ne suivent pas les enseignements de leurs propres professeurs. Il y a d'autres même qui ont plus confiance des professeurs d'ailleurs. Ils s'organisent dans des petits groupes comme ça, sans un meilleur encadrement, mais ils sont là, ils sont en train de travailler. Pour ceux qui viennent à l'école, il y a aussi ce problème de manque d'assiduité. Il est là, finaliste. Il ne fait aucun effort. Au contraire, il y a des négligents. Et ce sont ces négligents-là qui, ayant déjà reçu des promesses, vont se rendre compte que ce qu'ils ont comme situation avec toutes les promesses, à la fin de l'année, il y a l'échec et c'est tout le monde qui s'alarme. C'est ainsi que, passant des causes, nous pouvons même voir maintenant quelles sont les conséquences qui s'en suivent. Vous avez déjà bien dit dans l'introduction, il manque de considération. L'enfant se rend compte que après l'échec, c'est tout le monde qui ne le considère pas comme il faut. Il n'est pas intelligent. On l'accable de tous les maux. Il y a l'humiliation, il est humilié, il y a la honte. Et dans cette honte, on voit même des enfants, lors de la publication des résultats, des enfants qui ont échoué, mais voyant leurs amis imbibés de poudre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent aussi les poudres qu'ils mettent à la tête, mais après la publication, 2 jours, 3 jours, 1 semaine après, on se rend compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la réalité est là, les résultats sont sortis et je ne me retrouve pas dans cette liste de publications. Ce sont des problèmes qui amènent des fois aussi au suicide, des problèmes qui amènent à la destruction des infrastructures. Vous comprenez que les écoles qui avaient déjà donné des promesses à leurs enfants qu'ils auront des 100% et qu'on se rend compte que les élèves ont échoué. Et aujourd'hui, la mauvaise pratique, c'est que ces mauvais élèves-là, au lieu de se rendre compte de ce qu'ils ont fait comme manque de conscience, de responsabilité, ils vont jusqu'à détruire les infrastructures scolaires. Voilà un peu, Monsieur Marcel, avant d'aborder la résolution, les grandes lignes concernant les causes et puis les conséquences de cette situation d'échec.
Voilà, oui, donc là, nous avons suivi, donc vous avez parlé des causes exogènes, c'est-à-dire des causes liées à l'environnement, mais également des causes endogènes qui sont liées à la personne elle-même, c'est-à-dire à l'enfant lui-même. Et nous avons déjà des auditeurs en ligne, il y a Roger Mbengue qui nous appelle de Lubumbashi, fils Mutombo qui est à Kinshasa. Si vous êtes également intéressé par ces sujets sur comment aider un candidat qui a échoué plusieurs fois à l'examen d'État à surmonter cette difficulté, c'est-à-dire à faire mieux prochainement, comment faut-il aider? Nous en parlons avec notre invité Odon Moulanda qui est expert en éducation. Si vous êtes également intéressé, donc le numéro d'appel c'est celui-ci, les 081 890 63 94.
Oui, j'ai fini par monter cet échec parce que je me suis donné la peine de travailler, mais ce qui m'a fait vraiment énerver, c'est quoi?
Oui.
Il y a des élèves qui n'y viennent pas à l'école, qui ne participent même pas à l'école, même pas les interros, même pas les devoirs. Même s'il vient à l'école, il ne travaille pas. Mais moi, à mon tour, moi, je travaille, je fais les interros, les devoirs, donc tout ce que l'école me demande à faire comme mon objet, je ferai. Mais arrivé à la fin, ceux qui ne viennent pas à l'école ont réussi. Et moi, ceux qui a pris les choses en sérieux, je me suis trouvé nulle part ailleurs. Mais c'est pourquoi je me suis dit que non. Donc, l'école, ce n'est pas pour moi. Pourquoi moi, je travaille, je n'ai pas eu. Mais ceux qui ne travaillent pas ont eu les résultats. C'est pourquoi je me suis dit que non. Il faut que je puisse me perdre même la vie pour ne pas voir ce qui est passé. À ce moment-là, je voulais poser la question à l'invité.
Oui.
Quel pourrais-je moi faire à ce moment-là par rapport à ce qui était passé, parce qu'il y a les élèves qui n'étaient absents à l'école, mais ils ont réussi. Moi, je n'ai jamais absenté à l'école, j'ai perdu. À ce moment-là, que pourrais-je moi faire pour ce cas-là?
Merci beaucoup, Giscard Banga Banga. Merci d'avoir appelé de Kisangani, Lubumbashi. Maurice est en ligne. Bonjour, Maurice.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute Maurice.
Oui, j'ai bien suivi le débat depuis le début. Moi je trouve que l'invité et aussi tous mes prédécesseurs ont plus parlé des causes externes de l'échec. Mais je voulais aussi, avant de poser ma question, de souligner un tout petit peu les causes internes. Et puis je vais poser ma question. Donc les causes internes, moi je voulais parler là du quotient intellectuel, je pense en psychologie, si bien l'invité me comprend, nous avons parlé aussi du quotient intellectuel. Il y a de ces élèves qui ont un quotient intellectuel en bas ou en dessous de la moyenne. Maintenant, nous connaissons tous les causes de cet effet ou de ces quotients intellectuels en bas de la moyenne. Donc l'élève est appelé à tout moment à avoir des échecs. Donc en chaque classe, il doit reprendre. Chaque classe doit reprendre. Et alors, avec ce genre d'élèves qui ont un quotient intellectuel un peu bas ou en dessous de la moyenne, comment est-ce qu'on peut leur aider? Comment est-ce qu'on peut leur aider à remonter les effets de leur échec? C'était ça ma question. Je vous remercie.
Merci Maurice d'avoir appelé de Lubumbashi. On revient à vous dans Moulando, espérant une éducation. Vous avez suivi d'abord Giscard Banga Banga qui nous a appelé de Kisangani, qui nous a fait part de son témoignage. Il a fait ses humanités, maths, physique à Kikwit. Et puis pour lui, il était très assidu. Mais voilà qu'il a échoué alors que ceux pour qui lui, il avait constaté qu'ils n'étaient pas vraiment des élèves appliqués. Mais ceux-là ont réussi. Il a dit alors... Quel conseil pourriez-vous donner à Giscard et puis à toutes ces autres personnes qui ont fait les mêmes constats, c'est-à-dire pour eux, ils étaient brillants, ils étaient appliqués, assidus, mais voilà que pour l'examen d'État, c'est ceux qui, d'après lui, semblaient moins appliqués et qui ont pu réussir.
Oui, merci beaucoup pour notre ami, je pourrais même l'appeler. Parce que pour son cas, ce que nous pouvons comprendre, c'est ceci. Il y a eu d'abord ce problème de surestimation. Lorsqu'il dit qu'il était plus appliqué, il faisait ceci ou cela, peut-être qu'il voyait la faiblesse des autres qui ne venaient pas au cours. Mais pendant qu'il ne venait pas, bien que je ne pouvais pas tout encourager, mais il y a d'autres qui se mettent aussi dans les recherches, qui cherchent à trouver aussi des professeurs d'ailleurs. Ils font des recherches pendant que lui pensait qu'après le cours, ça s'arrêtait là-bas. Il y a d'autres qui se sont mis aussi à aller dans d'autres recherches et ces recherches pouvaient aussi, d'une manière ou d'une autre, contribuer à leur réussite. Je sais que ce sont des cas qui arrivent. Nous, on en a vécu aussi, on s'est dit, bon, l'élève le plus brillant de la classe. On brille dans la classe, mais vous savez que, comme je l'ai dit ici, que l'évaluation en 6e est à la fois formative et sommative. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de cotation. Il y a les épreuves orales, il y a la dissertation, il y a la session ordinaire. Comment les autres élèves ont pu accumuler le point dans les différentes rubriques pour arriver à une cotation totale ou globale? Donc, je comprends que si lui-même est aussi conscient,
Il peut faire aussi une étude de conscience pour dire que si réellement il était tous les jours au cours, si réellement il était assidu et qu'il n'avait pas de situation d'échec, mais n'a-t-il pas eu un problème peut-être qui aurait affecté aussi sa morale pendant les examens? Ce sont des choses qui arrivent très souvent. Vous êtes là, vous êtes en train de travailler, mais on se rend compte que les conditions socio-affectives aussi peuvent faire que ces problèmes que vous avez dans la vie puissent entamer aussi sur les résultats scolaires. Bon, à distance, nous ne saurons pas donner la réponse qu'il faut à notre invité. Si on était en face, peut-être par un entretien psychologique, on pouvait même arriver à discuter un peu ces causes-là par rapport à la situation qu'il a vécue. Mais ce n'est pas une situation à dire que voilà, sincèrement, tous ceux qui travaillent, ceux qui sont assidus, réussissent moins par rapport aux irréguliers. Ça, ce sont des cas anodins, c'est-à-dire que des cas qu'il faut pas vraiment tenir compte. Ça peut arriver, mais ici, lorsque tout le monde se met au travail, que tout le monde est assidu, que tout le monde respecte la ligne de conduite de l'école, à travers le respect des programmes, c'est ce que nous encourageons et ce qui est vraiment capital.
Voilà. Alors, vous avez suivi également Maurice qui a appelé de Lubumbashi. C'est vrai, il a dit, vous avez évoqué des causes endogènes, entre autres l'irrégularité au cours et puis les manques d'assiduité. Mais pour Maurice, il y a également un aspect sur le quotient intellectuel. Il y a des élèves
qui ont un conseil. Oui, oui. Oui, oui. Nous avons toujours dit qu'au niveau de l'école, il ne faut pas seulement voir l'aspect pédagogique, mais l'école dispense de plusieurs aspects d'autres que nous devons voir aussi comment mettre en exergue, notamment l'accompagnement. Ici, le suivi. C'est là où nous parlions l'autre fois de l'apport de l'orientation scolaire et professionnelle dans le cadre de suivi psychopédagogique des élèves. Cet élève-là, je vois Maurice évoque le problème des quotients intellectuels. Le quotient intellectuel est analysé à quel niveau? Il faudrait qu'il y ait des psychologues au niveau de l'école. Ces psychologues vont aider les enseignants à compléter leur travail, parce que l'enseignant vient pour donner le cours. Il donne le savoir, des connaissances, mais par contre le conseiller d'orientation, le psychologue, lui amène la dimension psychologique pour voir quel est le niveau d'acquisition de l'élève par rapport à sa personnalité et qu'est-ce qu'il faut faire pour que chaque élève soit pris en compte par rapport à sa spécificité. Ça, c'est un aspect qui est très important. Donc, à travers le counseling, à travers l'accompagnement, à travers le suivi psychologique de l'élève, on peut déjà arriver à voir que cet élève, même si aujourd'hui il a échoué, mais en essayant de voir son cursus scolaire, il avait déjà des problèmes et que le moment venu, il fallait déjà l'aider, l'accompagner, l'encadrer pour qu'on n'attende pas au niveau de l'échec. Vous savez qu'en psychologie, on dit toujours, il n'y a pas d'échec humain. Donc, chacun est utile à quelque chose. Peut-être à un niveau plus bas, on l'aurait dit déjà l'aider pour dire, avec tout ce que vous avez présenté comme résultat, il vous est plus conseillé de ne pas faire telle option, mais de suivre telle option qui puisse vous permettre de vous épanouir par rapport à vos aptitudes. Mais aujourd'hui, quand tout est laissé à la merci de tout le monde, c'est aussi un problème important que l'auditeur a évoqué, que je ne manque pas aussi de pouvoir l'accompagner et l'aider dans ce sens-là.
Donc nous retenons que l'échec, ce n'est pas une fatalité. Donc pour quelqu'un qui a échoué, il faut se dire qu'il y a moyen de se relever, il y a moyen d'y faire face, il faut chercher à découvrir les causes. Vous avez parlé notamment des causes exogènes, des causes endogènes, mais le plus important, c'est de chercher à savoir pourquoi on a échoué et comment faire pour se relever, se dire que bon, ça peut arriver, mais ça finira par marcher. Nous avons même suivi des témoignages de personnes qui ont échoué deux, trois fois l'examen d'état, mais qui finalement ont pu surmonter cela et arriver à réussir. Merci beaucoup, Odon Moulanda. Nous rappelons que vous êtes expert en éducation. Et avec vous, on a parlé de comment aider un candidat qui a échoué plusieurs fois à l'examen d'état. On vous retrouve prochainement.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.